7h23 minutes, on a plusieurs questions scientifiques à poser à notre invité ce matin, que ce soit en raison de la crise actuellement de chaleur, là, les trois jours intenses, également sur la recherche entourant certains traitements pour la COVID-19. Le Dr Carl Weiss, qui est microbiologiste, est avec nous. Bonjour, Dr Weiss.
Bonjour, Monsieur Arcand.
La première question que j'ai envie de vous poser ce matin concernant l'utilisation là, de climatiseurs, de ventilateurs dans les CHSLD. On ne sait pas trop comment réagir, voyant que l'Institut de santé publique dit ben, il n'y a pas vraiment de recommandation, c'est du cas par cas. Comment vous l'interprétez?
Ben, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de données, alors on ne sait pas trop comment réagir. C'est-à-dire qu'il va falloir, encore une fois, jouer sur la corde d'un équilibriste. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté des centres de soins prolongés qui ne sont pas climatisés. On sait que beaucoup des gens qui sont dans ces hôpitaux, dans ces centres-là, ont des problèmes cardiaques et pulmonaires, donc la chaleur pour eux est un problème qui peut décompenser leur maladie de base. Et vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années en Europe, il y avait eu une vague de chaleur avec énormément de décès dans des centres pour personnes âgées parce que justement, il n'y avait pas de climatisation adéquate, il n'y avait pas de circulation d'air. Donc, c'est le problème d'un côté. Mais d'un autre côté, si on commence à installer des ventilateurs puis des appareils d'air conditionné un peu partout, ben là, ça va rendre les flots d'air complètement aberrants, turbulents, tout ce que vous voulez à l'intérieur de ces centres-là. Et donc, on se pose des questions sur est-ce que ça pourrait augmenter la transmission de la COVID-19 dans un centre, par exemple, qui n'aurait pas encore été touché, mais où il y aurait peut-être un ou deux cas qui commenceraient. Et à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait avoir une amplification de la transmission avec l'utilisation de tous ces appareils-là, ventilateurs, appareils d'air climatisé, etc. Alors tout ça, ça fait appel à une nouvelle science qu'on appelle l'aérobiologie qui existait mais qui semble prendre son envol de façon encore plus importante depuis la COVID-19, c'est-à-dire l'étude finalement des flux de microbes dans l'air. Alors, et comme il n'y a pas beaucoup de données là-dessus, ben, l'Institut national de santé publique est un petit peu pris de court et essaie de donner des grandes lignes directrices en disant clairement, ben, vous savez, on n'a pas beaucoup de données, mais il faudrait tenir compte des points suivants, c'est-à-dire faire attention que, bon, il faudrait peut-être garder les portes fermées, il faudrait s'assurer qu'on n'envoie pas trop d'air de l'intérieur des chambres vers les corridors, s'il y a plusieurs personnes dans la même pièce, il ne faudrait pas que l'air de la personne A s'en aille avec un ventilateur vers la personne B. Donc, c'est des espèces de lignes directrices très générales, un peu pratiques, dans un contexte où on va quand même devoir s'assurer que ces gens-là ne suffoquent pas et n'aient pas des complications. Parce que si vous imaginez, si ces gens-là ont des complications cardiaques ou pulmonaires de leurs conditions de base, ça ne va juste qu'empirer le problème.
Vous qui avez déjà porté ces vêtements de protection, le masque, visière, là, on parle des bénéficiaires, mais pour le personnel, est-ce que des journées de canicule où il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas d'air frais, ça suppose plus de pauses, justement, que les gens puissent se rafraîchir au moins un peu?
Alors oui, en effet, c'est très difficile. Moi, j'ai la chance de travailler dans un hôpital qui est entièrement climatisé, donc c'est beaucoup plus facile, je vous dirais, mais c'est pas tous les hôpitaux à Montréal et au Québec sont loin d'être à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'hôpitaux où beaucoup d'unités ne sont pas du tout climatisées. Alors c'est clair que d'avoir un masque, une visière, une blouse, surtout pour les gens qui sont préposés, qui font déjà un travail admirable, de porter ça de façon continue sur plusieurs heures, c'est parfois difficile. Là, vous allez commencer à suer. C'est pas toujours facile de respirer dans un masque pendant plusieurs heures. Donc, c'est un défi supplémentaire qui s'est rajouté à tout le reste. Mais il va falloir faire avec. Vous savez, il y a les pays chauds où ces gens-là ont dû avoir ces contraintes-là sans air climatisé existent. Malheureusement, c'est un défi supplémentaire dans le contexte actuel. Et puis, ça nous fait encore repenser dans la construction future des hôpitaux de s'assurer qu'on ait des systèmes de climatisation adéquats, pas juste pour le personnel de santé, mais aussi pour les patients, parce que les patients qui sont hospitalisés dans beaucoup de ces hôpitaux n'ont pas accès à l'air climatisé. Donc, eux aussi, là, on parle des soins aigus, vont souvent utiliser leurs propres ventilateurs ou les familles vont leur apporter des petits ventilateurs, etc.
Bon, maintenant, parlons de ce traitement controversé, là, un traitement qui comprend l'hydroxychloroquine. La France vient, en tout cas, ce que dernière dépêche, souhaite suspendre l'inclusion de nouveaux patients dans les essais cliniques. L'Organisation mondiale de la santé considère qu'au mieux, le traitement n'est pas très efficace et au pire, qu'il pourrait laisser des séquelles importantes, causer des problèmes, notamment cardiaques. Est-ce que vous avez l'impression que ce qu'on voyait comme étant une espèce de traitement intéressant est en train de tomber?
Oui, bien écoutez, au début, c'est pas qu'on le voyait comme un traitement intéressant, c'est qu'on le voyait comme on n'avait rien d'autre et il y avait peut-être quelque chose en arrière de ça. Il faut dire que ce traitement-là a toujours été administré avec un autre médicament qui s'appelle l'azithromycine, qui, elle, est une molécule intéressante pour les problèmes pulmonaires qu'on utilise depuis déjà très longtemps, qui est un antibiotique, qu'on utilise aussi pour réduire l'inflammation du poumon dans de nombreuses conditions. Au début de la pandémie, évidemment, on n'avait absolument rien. Et comme on n'avait rien, on s'est dit, bon, peut-être qu'il y a quelques études qui montrent un bénéfice possible. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser? Et puis, à ce moment-là, les gens se sont mis à l'utiliser. Vous savez, au début de l'épidémie du VIH, on a commencé à faire la même chose. Il y avait des gens, je me rappelle, qui avaient prescrit de l'interféron. Alors aujourd'hui, on sait que ça servirait strictement à rien. Mais devant le désespoir et devant rien, les gens se sont mis à utiliser ça. Et là, on s'aperçoit que finalement, l'hydroxychloroquine a très, très peu d'effets bénéfiques secondaires. Et en plus de ça, des effets potentiels au niveau cardiaque, même si c'est rare, mais ça peut arriver. Alors, dans le contexte, les gens se sont dit, ben, et surtout que là, il y avait en plus une tendance à aller débuter le médicament en prophylaxie, d'aller prendre le médicament un petit peu. Vous avez vu des fois le président Trump qui a dit, je vais prendre ça. Est-ce qu'il l'a pris ou pas pris, je ne sais pas. Mais en se disant, je vais prendre ça en prophylaxie, alors là, il y avait un danger aussi que les gens se mettent à commander sur Internet, aillent s'acheter des prescriptions d'hydroxychloroquine et commencent à prendre ça en prophylaxie. Et là, ça aurait été un problème beaucoup plus majeur aussi.
Dernière question. Qu'est-ce qu'on sait de plus depuis quelques jours concernant le virus, concernant sa propagation ou encore les effets? Certains disent qu'il y a des effets plus graves qu'on pensait sur certains types de patients. C'est vrai ou pas?
Oui, ce qu'on sait surtout, c'est qu'on a la confirmation de plus en plus que c'est un virus inflammatoire, c'est-à-dire que c'est un virus qui crée, c'est pas juste le virus, mais c'est un virus qui induit une réponse chez les gens très inflammatoire. Donc les gens vont s'auto, entre guillemets, créer des problèmes au niveau de leur sur-réponse, sur-réponse par rapport au virus. Puis l'autre chose aussi que le virus tend à faire, par exemple, on sait qu'il favorise même la création de nouveaux vaisseaux sanguins. Donc, c'est un virus qui est très thrombotique, qui provoque des caillots de sang dans le corps. C'est un virus qui va provoquer de la formation de caillots, qui va agir beaucoup au niveau de l'inflammation des artères. Hein. Vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le syndrome de Kawasaki chez les enfants. On a parlé des orteils bleutés chez les adolescents. On a parlé des accidents vasculaires cérébraux chez des jeunes patients. Donc, tout ça mis ensemble, c'est un virus qui provoque beaucoup, beaucoup d'inflammation, je vous dirais, au niveau des artères. Donc ça, c'est le côté qu'on découvre de plus en plus au niveau de ce virus-là. L'autre côté, évidemment, qui peut-être est un peu plus encourageant, c'est que tranquillement, on essaie d'avancer dans le domaine A, des vaccins, et B, peut-être des médicaments. Et même si c'est encore très loin, ben, au moins, on sait que là, il y a des gens qui commencent à avancer un petit peu plus. On arrive peut-être à des phases 1. Donc, on espère juste que ça va se concrétiser dans le futur. Parce que n'oublions pas que tous les médicaments qu'on a à date sont des médicaments un petit peu pas conçus pour la COVID-19, mais c'est des choses qu'on avait dans notre tiroir, qu'on a sorti et on s'est dit, tiens, on va essayer d'ouvrir la serrure avec la clé qu'on a en voyant si ça va marcher.
Merci beaucoup, Dr. Weiss. Bonne journée.
Ça me fait plaisir.
Au revoir, Dr. Carl Weiss, qui est microbiologiste, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal.